Vivre FM, podcast.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Bonjour et bienvenue dans Recherche et partage. Après quelques émissions en 2014 que vous pouvez réécouter en podcast sur le site de Vivre FM, nous voilà de retour pour un cycle d'émissions à nouveau passionnante, je l'espère, pour découvrir des projets de recherche appliqués dans le domaine du handicap et suivre les actions menées par la FIRA et ses partenaires. La FIRA, c'est la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap. C'est la réunion d'hommes et de femmes qui souhaitent aider à faire bouger très concrètement les choses pour améliorer la vie des personnes handicapées. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, voilà un sommaire très sommaire de cette première émission. Nous allons nous pencher sur la participation des personnes handicapées à la gouvernance locale et on va essayer de savoir comment faire si on veut mesurer l'impact des stratégies de développement local inclusif. Ça vous paraît peut-être un peu confus à cette heure-ci, ça tombe bien, vous restez à l'écoute de Vivre FM et vous en saurez plus dans un instant. Et en dernière partie d'émission, nous changerons de registre pour parler des prix acteurs économiques et handicap remis par l'OCIRP à celles et ceux qui œuvrent pour l'insertion sociale des personnes en situation de handicap. Recherche et partage, c'est tout de suite sur Vivre FM. Avec nous, autour des micros et pour parler d'un beau projet de recherche que la FIRA accompagne, Pascale Vincent, chercheuse, membre du CIEDEL, Centre international d'études pour le développement local. Bonjour.
Bonjour.
Serge Mabali, de l'Association des paralysés de France, l'APF. Bonjour Serge.
Bonjour.
Et Florence Sorin, responsable du projet handicap de l'OCIRP. Nous vous retrouverons en dernière partie d'émission, mais bien sûr, vous pouvez intervenir à tout moment pendant cette première partie. Bonjour. Alors Pascale, on va commencer avec vous. Puisque le CIEDEL dont vous êtes membre est le porteur d'un projet de recherche financé par la FIRA, un projet qui traite de la participation des personnes en situation de handicap à la gouvernance locale, et vous cherchez précisément à définir comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact des stratégies de développement local qui incluent les personnes en situation de handicap. Tout ça est encore un peu long. On va peut-être partir d'un constat. On sait que les personnes en situation de handicap sont un peu les oubliées des processus de développement local et qu'on ne leur demande pas forcément leur avis. Quand bien même on leur demande ou qu'ils le donnent, on les écoute pas forcément. C'est ça. C'était le constat de départ qui a fait que vous vous êtes dit, tiens, il serait peut-être bon de proposer une démarche de réflexion là-dessus.
Oui, tout à fait. En fait, l'histoire aussi du projet, c'est handicap international, parce que le CIEDEL n'est pas seul à travailler sur ce projet. On est quatre structures. Handicap international qui travaille depuis assez longtemps sur les questions de développement local inclusif, avec également le CIRIS qui est basé au Canada, au Québec exactement, et qui est un centre de recherche là qui a développé depuis très longtemps des recherches sur les questions de participation sociale.
Alors le CIRIS, comme on va citer quand même une fois, après on dira CIRAS, mais Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale.
Exactement.
Voilà. Maintenant on dira CIRIS, mais pour les auditeurs qui connaissaient pas. Et donc le CIRIS qui a développé
le modèle de base,
dont on va parler,
oui.
Au Québec et à Bordeaux, je crois.
Oui.
Donc handicap international, le CIRIS.
Et Vida Brasil, qui est en fait une ONG brésilienne qui accompagne les mouvements, en fait, les mouvements sociaux. Et plus particulièrement donc les organisations qui représentent les personnes en situation de handicap sur les questions, notamment au Brésil, sur les questions de budget participatif.
D'accord, alors ça c'est les trois partenaires associés sur ce projet. Et puis un mot bien sûr sur le CIEDEL, Centre international d'études pour le développement local, dont vous faites partie, le CIEDEL.
Qui est basé à Lyon, qui est rattaché à l'Université catholique de Lyon et qui en fait travaille depuis 20 ans sur les questions de renforcement de capacité des acteurs autour des questions d'implication à la participation de l'élaboration des politiques publiques locales, notamment dans le cadre du travail avec les collectivités, les communes, les agglomérations, et qui donc travaille sur le renforcement de capacités autour de ces questions de capacité de participation.
Et alors comment a démarré, comment est né ce projet, comment est née l'idée du coup de faire appel à la FIRA et de proposer une recherche appliquée là-dessus?
Au départ, c'est Handicap International en fait qui a sollicité les autres partenaires à partir du constat des difficultés d'application en fait de la Convention internationale sur les droits des personnes en situation de handicap et qui donc a choisi de nous approcher pour travailler ensemble sur ces questions, puisque une des questions qui se pose, c'est la visibilité aussi des effets de l'inclusion sur le développement des personnes, de leurs organisations et des territoires sur lesquels ils vivent.
Alors il y a peut-être quelque chose qu'il faut préciser aussi tout de suite, c'est qu'on a un projet qui est très international, handicap international. Je crois que précisément, en tout cas, et dans le cadre de cette recherche, faciliter les liens avec des partenaires. Eux travaillent sur le Mali, Madagascar, j'ai vu, enfin sur d'autres sites. Et vous-même au CIEDEL, vous êtes assez ouvert aussi sur l'international.
Le CIEDEL travaille sur les questions de coopération, donc historiquement avec les pays Amérique du Sud, Afrique, un petit peu Asie, et aussi France. Et donc c'est sur le capital, on va dire, depuis 20 ans sur lequel le CIEDA travaille dans différents pays sur ces questions de participation qu'en fait Handicap International nous a approchés aussi, puisqu'on a aussi des liens, puisque Handicap International est basé à Lyon aussi.
D'accord. Serge Mabali, donc de l'Association des paralysés de France, vous êtes d'accord avec ce constat dont nous parlait Pascal Vincent à l'instant, les personnes handicapées devraient, enfin doivent logiquement, selon la convention justement relative aux droits des personnes handicapées, devraient donc participer à toutes les décisions les concernant et participer à la vie politique et la vie publique. C'est pas le cas aujourd'hui, même en France, parce qu'on pourrait se dire peut-être qu'à l'international ça marche un peu moins bien. Mais commençons par balayer devant chez nous, on va dire. En France, ça se passe comment? Il y a réellement des efforts à faire?
Je pense que la place des personnes en situation de handicap dans la gouvernance est essentielle. Elle est même plus importante aujourd'hui, parce qu'on voit que la France, entre guillemets, n'a pas évolué depuis l'adoption de cette loi. Et je pense que, en fonction des moyens dont la France dispose, on pourrait vraiment avancer le débat sur cette thématique-là. Et il est essentiel d'impliquer les personnes en situation de handicap au cœur même des sujets qui est le leur, à savoir le handicap.
Et alors ces sujets justement dont on parle, de quoi s'agit-il? Parce que c'est vrai, quand on dit vie publique, vie politique, les gens se rendent peut-être pas compte à quel moment justement on a zappé la parole des personnes handicapées. Des exemples peut-être pour que ce soit plus précis.
Des exemples en France, c'est l'application des lois sur les questions d'accessibilité à l'espace public, par exemple.
Donc les commissions qui planchent.
Les commissions qui planchent sur les difficultés de pouvoir accéder aux services publics, de pouvoir accéder comme tout le monde à l'espace public, c'est-à-dire de pouvoir sortir de chez soi, de pouvoir derrière avoir une choisir sa vie aussi et de pouvoir participer à toutes les activités de la vie collective au même titre que tous les citoyens.
Serge.
C'est pertinent et encore plus essentiel, parce que j'ai eu l'occasion de visiter un petit peu quelques pays en Europe, et il y a une remarque et un constat vraiment qui très touchant, parce que en France, quand vous baladez sur les rues de notre beau pays qu'est la France, vous rencontrez rarement des personnes en situation de handicap. Moi, je suis allé en Allemagne, c'est impressionnant le nombre de personnes en situation de handicap qu'on voit c'est impressionnant. C'est pas dans le sens où il y a plus de personnes en situation de handicap en Allemagne qu'en France, mais ça veut dire que l'Allemagne met en place des outils, des moyens pour permettre aux personnes de sortir de chez eux. C'est ça qui est vraiment essentiel dans cette démarche. Et en France aujourd'hui, les personnes n'arrivent pas à sortir, n'arrivent pas à avoir un lien social, n'arrivent pas à fréquenter certains lieux, tout simplement parce qu'elles peuvent pas sortir de chez elles. Et c'est ça qui est, je pense, aujourd'hui très important en France, parce que il faut à un moment donné donner envie à ces personnes-là de pouvoir vivre comme tous les citoyens français.
Et puis, vous le disiez à l'instant, Pascal, c'est vrai que l'accessibilité des lieux, j'allais dire, c'est peut-être l'étape numéro un, étape sur laquelle on est un petit peu revenu en arrière en France, disons que ça va un peu moins vite que prévu. On parle de ça, on parle par exemple sur cette loi d'accessibilité des lieux publics, il y a eu effectivement un décalage, un retard en tout cas. C'est dans ces commissions-là qu'il y a un manque crucial, que les personnes handicapées ne sont pas intégrées, impliquées, ou qu'on les écoute pas.
Il y a plusieurs problèmes. Il y a effectivement déjà participé à ces commissions. Et puis après, il y a aussi pouvoir dialoguer avec les techniciens, parce que le langage est très souvent très technique, pouvoir faire des propositions pour pouvoir améliorer justement l'accessibilité des lieux publics. pouvoir aussi se concerter avec d'autres associations pour pouvoir faire des propositions communes, pouvoir aussi derrière mettre en œuvre des actions, c'est-à-dire vraiment porter aussi des actions en partenariat avec les communes, avec les agglomérations en milieu urbain, porter aussi des actions avec les organismes qui gèrent les logements, avec les réseaux de transport, les sociétés qui mettent en place, organisent les transports publics. C'est des exemples autour de aussi ces questions-là.
Mais alors, on vous le dit à l'instant, Serge, on a un problème en France, en tout cas manifestement, même comparé à nos voisins européens, ça marche moins bien. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas justement aujourd'hui à avoir une représentation des personnes en situation de handicap dans ces commissions, aux endroits où sont prises les décisions ?
Alors, il faut savoir qu'il y a de cela quelques années, on était encore vraiment en arrière, hein. Mais le débat a un petit peu évolué. Justement, on le constate aussi parce que on est de plus en plus sollicité dans des médias. Il y a de plus en plus de réunions. Il y a de plus en plus de demandes sur ce sujet. Donc, on peut dire quelque part que le débat avance un petit peu. Mais concernant vraiment l'implication des personnes en situation de handicap au sein de ces thématiques, c'est très difficile parce que très souvent, on se dit, c'est des personnes qui vont tout de suite venir nous mettre des barrières. C'est des personnes qui vont exiger beaucoup de choses et dont on n'aura peut-être pas les moyens pour mettre ça en pratique, mais aujourd'hui on peut rendre la France accessible avec des petits moyens. Vous avez, je peux vous prendre l'exemple dans certains départements où, tenez, je vais vous prendre mon cas tout à fait, parce que moi je pratique du tennis en e-sport.
Donc, ouais, parce on n'a pas dit aux auditeurs, mais vous avez un léger handicap.
Oui, voilà, j'ai la polio, donc je pratique du tennis en e-sport, mais c'est fou parce que je suis obligé de venir à Paris pour intégrer un club en e-sport accessible, alors que tout simplement près de chez moi, il pourrait tout simplement avoir une petite rampe qui permet d'accéder au club au cours de tennis, mais on n'a pas cela. Donc c'est important d'impliquer les personnes en situation de handicap, en tout cas leurs représentants également, dans le débat qui concerne la thématique du handicap. C'est essentiel. On peut pas mener à bien une politique du handicap si on n'intègre pas ces personnes-là, et si avec, puisque ces personnes représentent une voix. Aujourd'hui, l'association des Parisiens de France est la deuxième association en France, juste après la Croix-Rouge. Donc elle a derrière elle un certain nombre d'adhérents, une voix forte aujourd'hui, et elle a un mouvement aussi interassociatif puisqu'elle travaille avec d'autres associations, et c'est essentiel aujourd'hui de les intégrer dans le débat politique.
On va revenir avec vous dans un instant pour parler de ça, de cette peur qui est peut-être le premier frein à l'intégration des personnes en situation de handicap dans ces commissions. Et puis avec Pascal, on reviendra tout de suite aussi sur les exemples à prendre ailleurs, parce que souvent des solutions très simples peuvent être mises en place pour simplifier la vie des personnes handicapées. On se retrouve tout de suite après un peu de musique.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour dans Recherche et Partage, je cherchais le nom, ça y est, j'avais déjà oublié. Avec nous, toujours autour de ces micros, Pascale Vincent, chercheuse, membre du CIEDEL, Centre International d'Études pour le Développement Local, Serge Mabali de l'APF, l'Association des Paralysés de France, et Florence Sorin de l'OCIRP, qui s'est fait discrète, mais qu'on entendra plus précisément dans cette troisième partie d'émission dans un peu plus tard. Alors Pascal, Serge nous disait à l'instant, effectivement, il y a le frein numéro un, on va dire, qui est encore malheureusement la peur que ce soit un peu compliqué avec les personnes handicapées. Heureusement, il y a des gens comme vous qui font des recherches pour simplifier la vie des personnes handicapées. Mais concrètement, pour nos auditeurs, deux petites choses, c'est-à-dire comment se déroule la recherche ? On a vu qu'il y avait des partenaires, que ça incluait des acteurs à l'international. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Comment vous avez déroulé ça ? Parce qu'il faut aussi dire une chose, c'est que ce projet de recherche est porté et a commencé déjà en 2011, je crois.
De 2012.
2012, voilà. Donc, fin 2012. Déjà dû avancer, j'imagine, dans cette recherche. Oui. Alors concrètement, quelles étaient les étapes de cette recherche ?
La première étape, c'était la mobilisation de territoires partenaires. Alors, quand on dit territoire, c'est soit des associations, soit des collectivités qui avaient été d'accord pour travailler avec nous, donc les quatre partenaires, pour s'impliquer dans l'expérimentation, en fait, d'outils qu'on a partagés avec eux. et aussi avec lesquels on a expérimenté cette possibilité de mesurer en fait donc les questions de participation.
Alors c'est quoi ces outils justement dont vous nous parlez? Comment on fait concrètement pour expérimenter ça?
C'est des outils d'abord qui permettent de connaître l'environnement, c'est-à-dire le lieu de vie où on est, le territoire sur lequel on vit, et donc de pouvoir caractériser ce qu'on dit cet environnement, de voir les difficultés qu'il pose en termes d'accès, en termes de vie collective, en termes de choix de vie, etc. Et puis ensuite, bon ça c'est un premier outil. Un deuxième outil, c'est deux outils en fait qui ont été apportés par le CIRIS, qui sont d'une part un outil de la mesure des habitudes de vie et un outil de la mesure de la qualité de l'environnement. Et donc ces outils permettent de voir en fait les domaines dans lesquels les personnes en situation de handicap sont ou non impliquées, peuvent ou non s'impliquer. Du fait des choix qu'elles font ou du fait d'obstacles en fait qui résident dans l'environnement. Quand on parle obstacle, ça comprend aussi le regard des autres. Donc il y a ces deux outils là et puis après il y a deux autres outils qui sont d'une part ce qu'on appelle la caractérisation et la mesure de la gouvernance locale, c'est-à-dire est-ce qu'il y a ou pas des espaces dans lesquels il y a une possibilité de participer sur les discussions publiques, sur les actions publiques qui sont mises en œuvre sur le territoire autour des questions des handicaps, mais aussi plus généralement sur toutes les questions qui sont débattues au niveau de l'espace de l'environnement de vie ou l'environnement de travail. Et puis donc ça d'essayer de voir s'il existe ces espaces et jusqu'où les personnes sont impliquées ou pas impliquées. Ça c'est le quatrième outil. Puis un dernier outil qui est l'indice de participation sociale. Donc la caractérisation de la gouvernance, c'est le CIEDEL qui l'a apporté, et Vida Brasil a apporté l'indice de participation sociale. Le CIRIS, c'est les deux autres outils de mesure des habitudes de vie et de la qualité de l'environnement.
Et puis, j'allais dire, on parle des partenaires, Handicap International, Vida Brasil, il y a aussi l'implication des organisations de personnes handicapées. Voilà. Et voilà. Vous avez donc un retour, parce que là, c'est vrai qu'on parle recherche, mais à tous les niveaux, on va dire, de cette recherche, bien évidemment, les personnes handicapées sont placées au premier plan.
On a, au départ, en fait, on a travaillé une fois que, bon, il y a des territoires qui ont été d'accord pour travailler avec nous. En France, donc, il y a Bordeaux, l'APF, qui a porté toute la mobilisation de partenaires d'autres associations à Bordeaux pour travailler dans le cadre de cette recherche. À Madagascar, c'est à travers Handicap International, c'est la ville de Tuléar en fait qui s'est impliquée. Ensuite, au Brésil, avec Vida Brasil, ben c'est Salvador de Bahia. Et puis au Québec, c'est l'Europe 03 qui est un partenaire du CIRIS, qui anime une plateforme en fait d'accessibilité.
Serge, Pascal mentionnait l'APF à l'instant. Qu'est-ce que ça vous amène à vous, à double titre, en tant que personne handicapée et en tant qu'organisation du handicap et en plus la deuxième association de France, vous le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous concrètement aussi que des porteurs comme le CIEDEL mettent en place ce type de recherche?
Je pense, comme Pascal le disait, c'est important d'intégrer justement toutes les associations qui œuvrent sur ces différentes thématiques là, à savoir l'accessibilité, et vous le citez tout à l'heure là en parlant de l'emploi également. Donc c'est vraiment là, on est vraiment dans le cadre d'une accessibilité universelle, c'est-à-dire y compris, et il faut savoir que le débat sur cette thématique là ne touche essentiellement les personnes en situation de handicap, mais ne concerne pas que les personnes en situation de handicap. Il y a aussi les personnes âgées, il y a les femmes enceintes, les mamans avec les poussettes qui ont souvent la peine à accéder dans des bus, qui ont souvent la peine de trouver de la place dans les bus. Il y a aussi l'accessibilité dans le monde de l'emploi, des entreprises qui ont de plus en plus du mal à recruter les personnes en situation de handicap. Il y a vraiment plusieurs thématiques qui fait qu'aujourd'hui, ces associations-là, on est obligé de composer avec ces associations-là qui portent la voix des personnes en situation de handicap. C'est essentiel. On peut pas mener un débat sur ces différentes thématiques-là si on n'intègre pas concrètement toutes ces différentes associations. Et le lien interassociatif est essentiel dans cette recherche.
Mais qu'est-ce que ça amène à l'APF d'avoir un projet de recherche, j'allais dire un cadre de recherche plus officiel? C'est utile aussi pour vous, parce qu'on pourrait se dire que l'APF finalement a suffisamment d'expérience et de regard et de membres pour pouvoir savoir, on va dire, quelles sont les problématiques et mettre en place vos propres outils, pourquoi pas. En quoi d'avoir une recherche portée par exemple par le CIEDEL va être extrêmement important pour faire avancer les choses concrètement? C'est parce qu'on a besoin à un moment de poser des mots, d'avoir un rapport qui dise, bah voilà, on a cherché, étudié et on peut vous le dire, ça se passe comme ça?
Tout à fait. Bah, là, en plus, dans le cadre de cette recherche, elle est d'autant plus importante qu'elle a une vue, en fait, au niveau international, j'ai même envie de dire mondial, parce que justement, ça nous permet de voir ce qui est fait, d'avoir des constats et d'avoir des résultats concrets, c'est-à-dire de ne plus rester. Aujourd'hui, en France, l'APF a fait, en tout cas, ce qui est nécessaire. Aujourd'hui, au niveau de notre territoire français, on sait ce qui doit être fait. Mais la vision de ce type de recherche est plus importante parce que ça nous permet d'avoir une vision plus large.
Serge disait à l'instant donc l'importance d'avoir de la recherche, et on a envie de dire, et alors qu'est-ce que ça donne, parce qu'on sait que donc ça a démarré en 2012, il y a eu un état des lieux de fait, il y a eu des ateliers, il y a eu des échanges, on est 2015, même si on est au tout début, est-ce qu'aujourd'hui on a déjà des avancées? Est-ce qu'on peut dire, bah voilà, on n'a pas cherché dans le vent, justement, c'était concret, on a trouvé des choses? Alors est-ce qu'on a trouvé des choses?
Oui, je pense.
J'espère.
J'espère aussi.
Mais est-ce qu'on va savoir ce qu'on a trouvé?
En fait, l'expérimentation d'outils, ce que les chercheurs aussi ont regardé, c'est sur plusieurs plans. C'est d'abord, est-ce que le fait d'utiliser des outils de mesure permet aux associations de se rapprocher? Ça, c'était un des points des faits sur la question de travailler sur la participation pour participer. Est-ce que finalement ça mobilise? Est-ce que ça mobilise? Est-ce que ça rapproche? Est-ce que finalement ça permet aussi de faire des constats communs, c'est-à-dire des associations sur le territoire qui travaillent pas forcément ensemble? Est-ce que, à travers l'utilisation de ces outils, ça leur a permis de faire des constats communs, qu'ils avaient des problèmes communs? Est-ce que ça leur a permis aussi de construire un discours commun, d'avoir des revendications communes? Est-ce que ça leur a permis de porter un nouveau regard sur leur environnement, sur les contraintes de l'environnement, sur les idées qu'elles pourraient proposer? Voilà. Est-ce que ça a permis, en fait, une dynamique de réseau au niveau des territoires? Ça, c'était un premier point.
Et ce qui est particulièrement essentiel dans le domaine du handicap, où l'on sait que justement la diversité aussi des handicaps, pas empêche, mais en tout cas fait que généralement on a chacun qui va chercher dans son domaine, et que dès qu'on se place à un niveau transversal, c'est peut-être plus intéressant de voir ce qu'on a en commun. Hein. Oui, c'est vrai. Et alors, donc ça c'est la.
Et donc un des premiers constats, c'est que effectivement le fait d'expérimenter ces outils fait que le travail ensemble à plusieurs associations pour tester ces outils, ça a eu déjà ce premier effet de manière assez différente selon les contextes, hein, selon les territoires, mais il y a eu cet effet-là de réseau qui est la première, je dirais la première clé d'entrée pour pouvoir porter des revendications communes auprès des politiques publiques. Donc ça, c'était un premier point hein, qu'on a regardé.
Et un deuxième point, mais plus rapidement, parce que le temps défile.
Un deuxième point, après, c'était de voir est-ce que ça permet de rentrer plus facilement en dialogue aussi avec les élus, notamment les services techniques qui se chargent de la mise en place, l'aménagement, ce qu'on appelle l'aménagement du territoire, mais aussi des partenariats avec les associations autour de ce qu'ils soutiennent pas, etc. Donc est-ce que ça aussi c'était un point important? Et oui, oui, ça a permis effectivement, notamment à Bordeaux, ça a permis un rapprochement et d'intéresser beaucoup plus directement, par exemple, la ville de Bordeaux, et de contribuer au dialogue, d'améliorer le dialogue.
Voilà, donc on est dans le concret, il y a des résultats. Et puis, comme c'est le cas pour la plupart, pour tous les projets d'ailleurs de la FIRA, l'intérêt c'est de partager ces découvertes, partager ces réalisations. Donc c'est le cas, j'imagine, aussi pour vous, que ce soit des rapports de synthèse, des outils de mesure et autres. Ils sont disponibles, déjà disponibles, bientôt
encore,
disponibles.
Bientôt disponibles. Voilà. En fait, on travaille sur un cahier de capitalisation de l'expérience.
Voilà, qui sera, j'imagine, disponible sur le centre ressources de la FIRA, accessible en ligne et pour permettre justement à chacun de partager cette expérience et à d'autres villes de suivre l'exemple de Bordeaux dans ce cas précis et d'autres villes. Merci à tous les trois, mais on reste ensemble. On se retrouve juste dans un instant pour parler de l'OSIRP.
11h midi, recherche et partage avec la FIRA sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour dans Recherche et Partage avec Pascal Vincent, Serge Mabali, qu'on a beaucoup entendu à l'instant, et avec Florence Saurin, responsable du projet handicap de l'OSIRP. Et cette fois-ci, c'est vous qui allez prendre la parole un peu plus que nos deux autres invités. Alors, vous êtes à l'OSIRP, donc chargée du projet handicap, je viens de le dire. Et vous allez nous parler de la 8e édition des prix OSIRP, acteurs économiques et handicap. Alors, ils ont été créés pour valoriser les actions des acteurs économiques qui œuvrent pour l'insertion sociale des personnes en situation de handicap. Mais alors, de quel acteur s'agit-il d'ailleurs? Est-ce que c'est des prix pour les entreprises, les associations, les particuliers?
Alors voilà, déjà la terminologie acteur économique, ça regroupe les trois types d'acteurs qui composent la société, c'est-à-dire les acteurs publics, les acteurs de l'économie sociale, donc les associations, principalement, et puis les acteurs privés, les entreprises de toute taille. Donc, effectivement, sous ce libellé, on avait vraiment la volonté de donner la parole à tous les types d'acteurs qui œuvraient justement pour le mieux vivre des personnes handicapées dans la cité avec un grand C. Voilà. Donc, ces prix sont ventilés à partir de 9 thématiques cette année, qui justement révèle des actions exemplaires, et ces thématiques, elles sont complètement en lien avec ce qui vient d'être dit, puisque il y a une thématique sur la citoyenneté, il y a une thématique sur les réalisations et les partenariats territoriaux, il y a une thématique sur l'emploi et la carrière, donc vraiment tout ce qui touche le parcours de vie d'une personne handicapée.
Et puis il y a en plus un prix recherche appliquée et innovation technologique, on reviendra peut-être un peu dessus, mais plus généralement, quels que soient ces prix, on l'a dit, c'est pour valoriser les actions de ces associations, entreprises et autres. Concrètement, ça donne quoi? C'est la 8e édition, donc on a déjà peut-être des exemples d'actions passées qui ont été primées.
Absolument, et là je peux en citer quelques-unes, justement sur cette idée d'accessibilité des personnes handicapées à la vie sociale et citoyenne. Il y a eu l'année dernière le coup de cœur du jury qui était la mise en lumière de la méthode européenne facile à lire et à comprendre. C'est une méthode donc qui permet aux personnes qui sont déficientes intellectuelles de pouvoir appréhender mieux la compréhension des documents, d'administratifs, mais aussi des textes qui peuvent illustrer une visite de musée, enfin des choses qui sont tout à fait essentielles pour la personne handicapée quand elle veut sortir et participer au même titre que les personnes valides à la vie de tous les jours.
Serge, c'est important ce type de prix, j'imagine, pour quelqu'un comme vous, et vous êtes membre aussi de l'Association des paralysés de France, parce que là, on est dans le concret. On était tout à l'heure dans la recherche appliquée avec le CEDEL, mais là aussi, on est dans de l'application très concrète d'actions réalisées.
Ah oui, moi ça me réjouit vraiment, et je me demande pourquoi j'ai pas un prix. Non, j'ai rien. Non, mais c'est vrai que c'est très important. Et dans cette reconnaissance-là aussi, c'est de dire qu'à un moment donné, ce sont pas des personnes en situation de handicap qui s'adaptent à la société, mais c'est bien la société qui s'adapte aux personnes en situation de handicap. Donc c'est essentiel d'avoir ce genre de reconnaissance.
Alors cette année, c'est ouvert, les candidatures jusqu'au 22 mars.
Jusqu'au 22 mars, vous pouvez candidater en ligne sur le site dédié au prix qui est exemple-à-suivre.fr. Donc un dossier à remplir en 6 étapes. où il y a une présentation de la structure donc qui postule. Et puis, bien sûr, après, il y a les étapes de description de l'action qui est présentée. Il convient que l'action, elle soit en cours de réalisation ou achevée. On n'est pas sur un appel à projet, là, pour le coup. On est sur quelque chose qui est déjà engagé ou finalisé. Et bien sûr, avec une partie qui va comporter aussi un bilan sur les résultats obtenus et les évaluations.
Et alors, il y a tous les domaines, on l'a vu, hein, il y a des prix un peu dans tous les domaines, parce que l'engagement, les bonnes pratiques de ces acteurs, ça concerne absolument tous les domaines du quotidien des personnes handicapées.
Ça concerne tout le monde.
Et tous les handicaps.
Et tous les handicaps, voilà. Toutes les personnes handicapées à tous les âges de la vie, tous les handicaps, tous les acteurs économiques, et vraiment dans la volonté de montrer ce qui est exemplaire et ce qui a besoin d'un coup de lumière, puisque le prix, au final, c'est une valorisation médiatique. Nous ne donnons pas de subvention financière, mais nous allons chez les lauréats et on réalise une petite vidéo, un format de 2 minutes et de 5 minutes qui est remis auprès aux lauréats et qui lui permet de faire la promotion de son action. Et ça, c'est très très important pour eux, puisque ce sont quand même des reporters professionnels qui le font, donc c'est en général des superbes beaux petits reportages.
Et puis le prix est remis par l'OCIRP, on le disait à l'instant, mais avec ses partenaires, la NDRH, l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, le CCH, je vais vous retrouver les initiales, je les ai notées parce qu'il y en a beaucoup, le FIPHFP, alors celui-là, dites-nous en plus.
C'est le collecteur.
La Fédération internationale des personnes handicapées, juste avant on avait le Comité national coordination action handicap. La FIRA, bien sûr, Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap, et d'autres partenaires, j'en oublie, l'ODAS,
bien sûr,
l'Observatoire national de l'action sociale désolidarisée, et la GFIP. Oui. Décentralisée, pardon, et la GFIP.
Voilà.
Tous ces partenaires, quel a été le constat de base? Pourquoi avoir créé ces prix finalement? On veut mettre en lumière ces actions bien sûr, mais parce que ça manquait, il n'y a pas assez ça de valorisation de ces
initialement
actions.
Nous, l'OCIRP, nous sommes un organisme de protection sociale, de prévoyance collective, et nous diffusons des garanties qui protègent la famille. Et dans ce sens, nous avons une garantie qui protège le salarié qui a un enfant handicapé. Et donc, de ce fait, on s'est rendu compte qu'il existait des choses qui se faisaient, mais parfois à l'échelle du territoire, parfois à l'échelle communale, parfois plus déployées. Mais en tout cas, ça avait besoin de visibilité. Et c'est vrai qu'en s'associant avec ces six partenaires fondateurs, on a eu vraiment la volonté de mettre en lumière toutes ces actions. On reçoit, je dirais, chaque année entre 200 et 250 dossiers pour 10 lauréats finaux. Donc un par thématique plus un coup de cœur du jury. Et parmi toutes ces actions, même s'il n'y a, je dirais, que 10 lauréats, dans les sélectionnés finaux, puisqu'il y a 50 dossiers qui sont présentés au grand jury, qui est composé d'une quarantaine de personnes, toutes ces actions, elles sont lues, elles sont vues. Et forcément, elles sèment, je dirais, dans les têtes des uns et des autres, je suppose.
Et c'est ce jury dont vous parlez à l'instant, il y a des experts, des partenaires, qui sont-ils? Est-ce qu'il y a justement, là, on parlait tout à l'heure de représentation des personnes handicapées dans les instances décisionnaires, et ben même dans le cadre de ce jury, est-ce qu'on a bien une représentation des premiers concernés?
Bien entendu, on ne pouvait pas faire sans eux. Donc on a plusieurs étapes de sélection. Dans la première étape, c'est une étape qui est faite par les relais experts qui sont associés à chaque thématique. Puisque ce que l'on cherche, c'est le caractère innovant, c'est le caractère reproductible, c'est la portée médiatique, c'est aussi la synergie avec plusieurs acteurs. Donc tous ces critères-là sont jugés par les relais experts qui sont associés à chaque thématique. Donc on a entre 4 et 5 relais experts sur chaque thématique, puisque on ne peut pas être expert en parcours scolaire et enseignement et en accessibilité et en recherche appliquée. Il y a chacun à ses compétences, donc
Les relais experts, ça fait partie de l'OCIRP?
Ce sont des associations, ce sont des fédérations, ce sont des organismes qui sont extérieurs à l'OCIRP et qui se portent volontaires pour relayer l'appel à candidature et puis pour juger des dossiers qui relèvent de leur thématique. Donc premier tri. Après, il y a un deuxième tour de sélection puisque les dossiers sont, il y a la cinquantaine de dossiers qui est Non, plus que ça, je dis des bêtises. Il y a une centaine de dossiers qui est présenté aux partenaires fondateurs, donc les 6 partenaires qui nous suivent depuis la création du prix, et qui, eux, balayent tous les dossiers, toutes thématiques confondues, et qui amènent au fameux jury final qui est placé sous la présidence d'honneur d'Axel Kahn, donc le président de la FIRA, 50 dossiers. Et on choisit donc à cette occasion-là donc 9 lauréats, hein, par thématique, plus un coup de cœur du jury.
Là, sur les dossiers déjà reçus cette année, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Est-ce qu'on, par exemple, par année, on voit des profils d'action différents en fonction de l'actualité, on va dire?
Alors déjà, je dirais que d'emblée, c'est le secteur associatif qui remonte le plus de dossiers, c'est normal. Les associations sont très très militantes dans le champ du handicap, on le sait bien, de tout type de handicap. Ça correspond à peu près à 50% des dossiers. Viennent ensuite les entreprises privées à 35%, et puis les acteurs publics à 15%. C'est à peu près la répartition, la ventilation que l'on a pour chaque édition. Et la grosse dominante des dossiers, en général, et récurrente aussi, c'est la thématique communication et sensibilisation. Comme quoi, il y a quand même des choses qui sont faites, et tant mieux, hein, c'est vraiment exemplaire. En second lieu, vient l'emploi et la carrière. Et en troisième lieu, la thématique sport, culture et loisirs.
L'APF, Serge, l'APF est impliquée à un moment dans ces prix, propose des dossiers. Florence nous disait à l'instant que le secteur associatif, c'est de là que vient le plus grand nombre de dossiers. J'imagine que l'APF...
Effectivement, elle a raison en le disant, parce que il faut aussi savoir que dans ce monde associatif, voilà, dans ces différentes thématiques, on est aussi expert dans beaucoup de domaines. Donc forcément, à un moment donné, on est poussé à participer à ce genre de prix. Et honnêtement, encore une fois, hein, je sais que la PF y participe, et ce genre de reconnaissance donne tout simplement envie de donner envie aussi aux autres d'y participer.
Alors, ce sera le 15 juin 2015, la soirée de remise des prix à la Maison de la Radio.
Oui, au studio 104. Puisque nous avons trois partenaires en plus médias qui sont France Info, Handicap.fr et l'INRES.
Et Vivre FM, bien sûr.
Et Vivre FM, bien sûr. j'imagine a plus de casquettes que ça, puisqu'elle est aussi relais expert.
Voilà, et j'imagine qu'on pourra suivre justement l'actualité de ces prix sur Vivre FM d'ici Absolument. Au mois de juin, et particulièrement quand il y aura la remise des prix. Autre chose à signaler pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient faire acte de candidature?
Eh bien, allez sur le site exemplesasuivre.fr, vous cliquez sur le bouton « Comment participer » et si vous avez le moindre souci, vous m'appelez.
vous criez très fort, Florence Sorin, elle vous répondra. Merci Florence pour toutes ces informations. Donc c'est le prix OCIRP, acteur économique et handicap. Et évidemment, nous vous invitons plus particulièrement à candidater dans la catégorie recherche appliquée et innovation technologique, puisque dans cette émission, en partenariat avec la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap, eh ben forcément, on s'intéresse précisément à la recherche appliquée. Je remercie tous mes invités, Pascal Vincent du CIEDEL, Serge Mabali de l'APF et Florence Sorin de l'OCIRP d'avoir été avec nous ce midi sur l'antenne de Vivre FM. Vous l'aurez compris, donc si vous souhaitez vous inscrire pour un prix, c'est sur exemplesasuivre.fr et puis aussi sur le site de l'OCIRP, hein, OCIRP.fr. Pour ce qui est de la FIRA, de retrouver tous les détails du projet dont nous avons parlé aujourd'hui, dont je vais vous redonner le titre si je le retrouve précisément, participation des personnes en situation de handicap à la gouvernance locale et comment mesurer l'impact des stratégies de développement local inclusif. Donc, pour retrouver toutes les informations qui concernent ce projet, c'est sur fira.org et particulièrement sur le site de ressources, le centre ressources de la FIRA, prochainement, voilà, qu'on pourra retrouver tous les résultats de cette recherche. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous, donc, et retrouver cette émission en podcast très bientôt sur le site de Vivre FM. Bon appétit, bon week-end à l'écoute de Vivre FM.